Jésus de Nazareth.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bienvenue à vous tous dans l'Amérique et vous, ce soir de la littérature et du cinéma. Du 19 au 25 octobre 2020 se tient un programme intitulé Saint Ben à travers l'Afrique. Cette initiative organisée à partir des États-Unis regroupe une centaine d'organisations, d'écoles, d'institutions universitaires et d'individus. L'objectif, perpétuer sa conscience panafricaniste à travers le continent noir. Ousmane Sembène se place sur le terrain de la critique sociale et politique avec l'histoire d'une jeune Sénégalaise qui quitte son pays et sa famille pour venir en France. Cette année, Sembène à travers l'Afrique collabore avec une douzaine d'organisations africaines pilotées par le centre de recherche ouest-africain basé à Dakar, Maisha Film School de Kampala, Sambé au Cameroun, ainsi que l'association kényane des scénaristes à Nairobi. Des projections de films, des débats et les séminaires agrémentent ce rendez-vous annuel. Vous êtes en compagnie d'Eric Manilakiza. La mise en onde est assurée par Lionel Lunanilagahima. Dans un instant, nous vous présentons nos invités. Samba Gadjigo, professeur à Mount Holyoke College dans le Massachusetts. Vous êtes spécialiste d'Ousmane Sembène. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Joël Vitiello, professeur de français et des études francophones à McAllister College dans le Minnesota. Bonsoir.
Bonsoir, Eric. Et bonsoir, Samba et Lionel.
Bonsoir.
Et bienvenue encore une fois dans cette édition de l'Amérique et vous, écrivain, réalisateur, acteur et scénariste, Ousmane Sembène nous a quittés le 9 juin 2007. Professeur Gadjigo, pourquoi cet enfant de Ziguinchor est considéré comme le père du cinéma africain?
Oui, vous savez, dans une de nos langues du Sénégal, en Wolof, qui est ma langue maternelle, il y a ce dicton, on dit que quand l'enfant ne vaut rien, il est l'enfant de sa mère. Quand l'enfant a de la valeur, il est l'enfant de tout le monde. Donc vous voyez, Sembène est sorti d'une famille très très modeste. Et grâce à sa volonté et à sa vision, d'abord il s'est inventé son propre destin. C'est-à-dire que à cause de sa naissance pendant la période coloniale, il pouvait rêver que d'être peut-être un fonctionnaire dans l'administration coloniale. Mais il a voulu aller au-delà, il a migré en Europe, il est devenu docker. C'est au vieux port de Marseille, au quai de la Jolie. À partir de 1947, si vous voulez, il s'est inventé un nouveau destin en devenant écrivain. Et ensuite, à partir de 1962-1963, il s'est réinventé en devenant cinéaste. Et donc, on peut dire de 1956, parution de sa première œuvre, à sa mort en 2007, comme vous l'avez dit, il a essayé de son côté, par l'écriture et le cinéma, de se faire le porte-parole de l'Afrique, d'être la voix des sans-voix. Pas seulement par le volume de son travail, mais par le contenu de ce travail-là, en tendant le miroir aux Africains pour qu'ils se voient tels qu'ils sont et pour qu'ils essaient également de prendre leur destin en main. C'est pourquoi il nous a semblé qu'il n'est pas le seul. Mais nous avons choisi de nous faire également les porte-parole de Sembène pour transmettre son message aux générations futures, pas seulement sénégalaises, pas seulement africaines, mais si vous voulez, parce que Sembène quand même avait un message universel.
Professeur Joël, comment vous découvrez Ousmane Sembène et qu'a-t-il de particulier selon vous?
Sembène Ousmane a une place primordiale dans le cinéma. Pas juste le cinéma africain, mais le cinéma mondial, vraiment. Je l'ai découvert en regardant ses films, tout simplement, en étant intriguée d'abord. Ensuite, en allant faire des recherches dans un centre de cinématographie en France, où ces films, où on pouvait voir certains de ses films, En fait, à l'époque, on ne pouvait pas voir tous ces films. Ils étaient un peu difficiles d'accès, à part Rala, qui existait en cassette. Je regardais la liste des films de Saint-Ben ce matin et je me suis rendu compte que j'ai enseigné à peu près tous les films de Saint-Ben Ousmane dans des cours différents. Comme dit Samba, il a un message universaliste, mais il a aussi un message très contemporain. Ce qui est très important, c'est qu'il a, permis au cinéma africain et aux cinéastes africains qui l'ont suivi de représenter leur continent à travers toutes ses facettes. Et ça, c'était vraiment un geste profond, anticolonial, postcolonial, décolonial, de grande importance.
Vous enseignez Ousmane Sembène aux Américains, des Noirs et des Blancs. Comment il est perçu? Quel est l'apport des œuvres de Sembène au niveau de cette audience américaine?
Les étudiants sont d'abord très surpris de voir la qualité cinématographique, esthétique et aussi politique de Saint-Ben Ousmane. D'autre part, c'est très important quand je montre par exemple Borom Saret et La Noire 2. Nous sommes obligés de parler du fait que les films sont en français, par exemple, alors que Saint-Ben aurait voulu les faire en Wolof et que Mandabi est le premier film qu'il a pu réaliser en Wolof. Et donc, quand on passe au film subséquent de Saint-Ben Ousmane, c'est très important pour les étudiants de considérer que dans un cours d'études françaises et francophones, et aussi dans mes cours de cinéma, Saint-Ben a pu faire des films qui sont pas seulement en Wolof, mais aussi en Diola avec Emi Tai, par exemple. Et donc, comment est-ce que les jeunes réagissent? Bon, ils sont très, très touchés par l'histoire de La Noire 2, qui, en fait, porte tellement de scènes encore très contemporaines. Le film qui les choque peut-être le plus, c'est Rala, parce que la fin de Rala peut sembler très, très dure. Alors qu'en fait, il s'agit d'un retour du personnage dans sa communauté après toutes ses erreurs de corruption et puis de finalement dire ce qu'il pense qui provoque son exclusion. Et alors qu'il s'était beaucoup moqué des mendiants de sa communauté, il réintègre la communauté, mais d'une façon qui paraît assez dure aux étudiants. Et la marque de Saint-Ben dans la clôture de ces films, c'est toujours une image très figée, donc en suspension, et qui oblige les étudiants à continuer le récit pour eux. C'est aussi important de mettre Saint-Ben dans une perspective mondiale, parce que ça provoque des réflexions sur le rapport entre le cinéma africain et le cinéma européen et français en particulier, et donc qui soulève des questions de production, de distribution et de réception. J'ai eu des étudiants qui ont fait du travail remarquable, en particulier sur la musique dans le film Chedo, sur la musique anachronique du gospel, du soul africain-américain par exemple, plaqué sur une époque tout à fait antérieure. Et dans le, quand on présente les films de Saint-Ben, un public américain qui n'a peut-être jamais vu ces films-là, on parle aussi toujours beaucoup de la musique parce qu'il a utilisé beaucoup de musiciens sénégalais. Il a beaucoup utilisé des chanteurs traditionnels de la musique de Soriba Kouyaté, pardon, de Youssou N'Dour, de Baba Mal. Il a une griotte très traditionnelle, très connue, qui fait partie de ses films aussi. Et donc, tout ça, c'est un ensemble qui est à la fois très nationaliste, mais pas nationaliste, panafricain, et donc qui est très très riche. Et aussi toute sa critique néocoloniale, c'est aussi très important pour les étudiants parce qu'ils connaissent très bien la négritude, par exemple, le mouvement de la négritude, mais ils ont un peu plus de difficultés à comprendre les critiques de la négritude et l'opposition de Saint-Ben à Saint-Gor, par exemple. Il ne faut pas oublier que Saint-Ben a déclaré un jour, dans une interview à une collègue, Saint-Gor est le plus beau fruit du système colonial que la France ait pu nous offrir. Donc ça demande beaucoup de réflexion d'amener nos étudiants à travailler ces œuvres. Mais en général, ils sont émerveillés.
Professeur Gadjigo, vous voulez nous parler du Docker Noir qui relate son expérience de Docker au port de Marseille.
C'est le premier roman autobiographique de Saint-Ben, mais avant le roman lui-même, en 1956, donc la même année, il avait publié, si vous voulez, un poème qu'on pourrait appeler un poème inaugural, hein, un poème qui s'intitule « Liberté », mais dans lequel on peut En fait, voir avec le recul aujourd'hui que Sembin était un visionnaire, parce que c'était un poème, disons, programme. Quel était l'objectif déjà en 1956 de Sembin? C'est d'utiliser l'art et la culture, comme l'a dit Joël, bien sûr, pour décoloniser l'Afrique, mais également, comme il le dit, nos enfants se promènent, avec la force de nos poings, nous créerons une nation. Nos enfants se promèneront libres dans une Afrique libre. Donc ça campe le décor de l'ensemble de Sembin. Alors la même année, il a sorti sa première œuvre sur les romanesques qui était le docker noir. On peut dire que c'est une œuvre autobiographique parce que Sembin lui-même a été docker à Marseille au quai de la Joliette de 1950 jusqu'à 1960. Donc dans cette œuvre-là, il décrit son expérience d'immigré, son expérience de docker, mais également sa rencontre avec l'écriture. Parce que Diaoufala, qui est le docker, est également c'est un docker qui aspire à devenir écrivain, donc à voler la parole du maître, apprendre à écrire pour parler de soi. Et il y a des épisodes très, très intéressants parce que après avoir terminé le manuscrit du roman, il n'y trouve pas d'éditeur et il y a une femme blanche, je crois que c'est Ginette Tontizane, donc qui se propose de l'aider à faire publier le roman. Évidemment, oui, elle fait publier le roman, mais en son propre nom, non pas au nom de Sembin. Donc voilà, il s'ensuit. Un roman très, très influencé par Native Son, en fait, de Richard Wright. Il s'ensuit une altercation entre le docker noir et la romancière française. Et il s'ensuit une mort d'homme. Donc il tue accidentellement cette femme-là et il se retrouve en prison. Et la fin de ce roman, en fait, est très, très, très influencée également par L'étranger de Camus. Donc voilà une première œuvre littéraire. Une œuvre d'initiation, évidemment avec beaucoup de faiblesses sur le plan de la narration, mais un engagement à prendre la parole pour être la voix des sans-voix. Et c'est ce qui a lancé la carrière de Sembin.
Professeur Joël, quel est le film que vous avez le plus enseigné?
Probablement La Noire 2. Mais j'ai aussi enseigné Mandabi plusieurs fois, Kala, Tshedo. Fat Kiné, j'enseigne encore assez souvent Fat Kiné.
Et Tshedo qui a été interdit au Sénégal par le président Senghor.
Oui, Tshedo a été montré au Festival de Cannes en mai 77, mais il n'a été montré au Sénégal qu'en 1984. Donc il y a eu une censure de presque 8 ans sur le film.
Oui, dans lequel il dénonce les invasions conjointes du catholicisme et de l'islam en Afrique de l'Ouest. Professeur Gadjigo, avant de vous intéresser à ses œuvres, c'est un homme que vous connaissez, que vous avez côtoyé personnellement. Avez-vous une anecdote à partager?
Oui, si vous voulez, bon, avant de rencontrer l'homme, bien sûr, comme tous ceux de ma génération, nous avons grandi au Sénégal, nous sommes allés au lycée, évidemment, nous sommes les fruits d'une collection qu'on appelle la Garde Ebichard, si vous voulez, assimiler, absorber beaucoup de textes littéraires français, de la Pléiade, Molière, Ronsard, c'est un peu plus tôt, mais, bref, tous les classiques de la littérature française. Et c'est au lycée que pour la première fois, par hasard, je suis tombé sur le roman que Sembin a publié en 1960, qui est Le bout de bois de Dieu. Et pour moi, c'était une sorte de fracture mentale, de fracture intellectuelle, de fracture psychologique, parce que pour la première fois, je lisais un roman dans lequel, bien sûr, les Noirs africains avaient pris l'initiative historique de faire une grève. Et dans la vision de Sembin, bien sûr, parce qu'on dit que l'artiste ne peut pas se passer du réel, mais l'artiste également ne se fait pas étouffer par ce réel. Donc, une œuvre dans laquelle Sembin imaginait des Noirs qui se sont révoltés contre l'autorité française, l'autorité syndicale, et qui ont gagné. Voilà la première fois, une œuvre dans laquelle je vois les Africains gagner quoi que ce soit. Nous n'étions que des décors dans les textes qui ont été écrits par nous. Ça, c'était en 1972. C'est seulement 17 ans plus tard, après être venu ici aux États-Unis, j'ai commencé à enseigner à Montreux et je m'envole à Dakar en 1989 pour rencontrer Sembin, l'homme. Alors tout de suite, quand je lui ai dit, mais je veux t'inviter aux États-Unis, il me dit, mais pourquoi est-ce que moi je laisserai l'Afrique ici pour aller aux États-Unis? Si tu veux lutter pour l'Afrique, le combat, c'est en Afrique. Ça avait déjà campé le décor de ce qu'était l'homme. Hein, si vous voulez, son pan-africanisme féroce. Évidemment, attention, je ne veux pas dire que Sembin se ferme au reste du monde. Non, il est comme, je crois que parmi tous les écrivains artistes sénégalais africains que j'ai connus, c'est celui qui, véritablement, qui est le plus universel, qui est le plus ouvert. Mais ce qu'il voulait me dire, c'est que pour lui, le centre de son univers, c'est l'Afrique. et il le répétera encore sur le plateau de sa dernière œuvre qu'il a tournée au Burkina Faso, Molade, dans un petit village à Djerisso, et j'étais là. Eh bien, le jour même du tournage, l'autorité burkinabé avait organisé une cérémonie de premier clap. Et voilà ce que Semben disait, et je cite, « Nous ne sommes pas seuls, en parlant de l'Afrique, nous ne sommes pas seuls au monde, mais nous devons être notre propre soleil. Si l'autre ne me voit pas dans le noir, moi je me vois dans le noir et je brille. » Voilà, si vous voulez, les deux anecdotes, les deux histoires que je vous raconte et je crois, à mon avis, rendre compte de la vision de l'homme, Semben.
Professeur Joël, comment vous évaluez l'impact d'Ousmane Sembène sur vous ou sur votre mari qui est son admirateur, n'est-ce pas?
Oui, je regrette beaucoup que Charlie ne puisse pas participer à cette émission parce qu'effectivement, il a aussi rencontré Sembène Ousmane. Il a organisé une belle rétrospective de tous ses films en 2010 au Walker Art Center. Mais l'impact sur moi, c'est que c'est un cinéaste panafricain, féministe, qui est non seulement anticolonialiste, mais qui est aussi très critique de la post-indépendance, en particulier au Sénégal. C'est un cinéaste qui a aussi laissé sa marque cinématographique, pas seulement dans le monde du cinéma, en organisant avec Tahar Sharia les premiers FESPACO en alternance avec les journées cinématographiques de Carthage, mais aussi dans son cinéma. Je suis toujours frappée par l'ouverture et la clôture de chacun de ses films, par la musique, par son sens de l'architecture, en particulier dans tous ses films sur Dakar en particulier, mais aussi par tout ce qu'il implique dans le titre de chacun de ses films et par les langues qu'il utilise dans chacun de ses films également, qu'il s'agisse du Diola, du Wolof, du français, même dans Fatkiné. Tout ça fait que chacun de ses films demande de les revoir deux ou trois fois et de s'y plonger. Et chaque fois, c'est un grand bonheur parce qu'il a beaucoup d'humour, il a beaucoup d'ironie, il a un œil très tranchant.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous suivez l'Amérique et vous, Sembène, à travers l'Afrique, c'est notre sujet de ce soir. Professeur Gadjigo, un film documentaire illustre le travail d'Ousmane Sembène. Il parle de quoi exactement? Est-ce que c'est sa critique sociale et politique?
Il s'agit tout simplement de présenter Sembène à l'Afrique, de présenter l'œuvre de Sembène, les grands, à grands traits, à grands pinceaux, croquer Sembène, les grands traits de sa vie, sa naissance à Jigenshor, ses années d'apprenti maçon à Dakar, sa participation à la Deuxième Guerre mondiale, ses expériences de docker, etc. Donc ouais, on a voulu présenter Sembène, on a voulu le donner un exemple, si vous voulez, aux jeunes Africains et aux jeunes de l'ensemble du monde. Parce que quand même, partir de fils de pêcheur à Jigenshor, devenir quand même une sommité sur le plan du cinéma et de la littérature mondiale, mais on voulait montrer aux Africains que, comme on dit en français, vouloir c'est pouvoir. Voilà un homme qui s'est réinventé. Donc voilà, c'était, si vous voulez, une œuvre de vulgarisation qui a été vue pour le moment dans 41 pays africains sur les 55. Il a été finaliste pour la Caméra d'or à Cannes. Il a obtenu un prix en Égypte. Il a obtenu également un prix au Niger et puis à travers le monde. Quoi qu'on dise, Sembène, il est un ouvrier marseillais typique.
Joël, tout à l'heure, vous avez parlé de Mandabi, le mandat ou Money Order. Cette comédie qui apparaît avec l'indépendance acerbe contre la nouvelle bourgeoisie sénégalaise, c'est un film que vous enseignez beaucoup. Que faut-il retenir pour quelqu'un qui voudrait le regarder?
Bon, beaucoup de choses, mais avant de répondre à la question sur Mandabi, je voudrais dire à quel point j'ai apprécié le film de Semba sur Sembène et qu'on l'a projeté aussi au Walker Art Center en 2015 et qu'il a été vraiment très très bien reçu dans une salle pleine, n'est-ce pas? Alors pour Mandabi, qu'est-ce qu'il faut retenir de Mandabi? Bon, c'est un peu difficile, je ne suis pas aussi spécialiste que Semba. Mais je dirais que quand je l'enseigne, c'est pour bien montrer le poids de la machine coloniale, de voir les différentes appréciations, de voir les différents quartiers de Dakar, de voir le poids de ce qu'on demande, comment le système colonial s'est imposé contre une culture en fait. et aussi de voir évidemment toute l'honnêteté traditionnelle dont se moque aussi un petit peu Saint-Ben, mais qui le pose, disons, dans un respect des traditions par rapport à la corruption qui a été générée par le colonialisme en fait.
Et l'Africain qui devient étranger chez lui.
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, qui n'a pas de papier, en fait, qui n'a pas d'identité, qui ne peut pas participer à cette nouvelle bureaucratie néocoloniale, coloniale. Il y a aussi toutes les scènes avec les femmes qui sont très importantes, avec la gestion de la communauté, le partage dans les communautés, le don, et aussi le regard du personnage principal qui sait déceler, ou qui, disons, qui se fait tout le temps gruger, mais qui sait aussi déceler, disons, la justesse, la justice, la vérité, le vrai du faux aussi. Par exemple, dans les scènes où il va donner de l'argent aux mendiants, il se fait avoir, bien sûr, mais aussi, il sait déceler les vrais mendiants des faux mondes, ceux qui portent des masques, en fait. Mais c'est un film qui est beaucoup plus complexe que la simple comédie. Et chaque fois que je le revois, en fait, je vois des choses nouvelles, des choses un petit peu différentes. Et je l'enseigne un petit peu différemment à chaque fois. Le texte de Saint-Ben avec...
Professeur Gadjigo, il y a aussi Rala qui est projeté durant cet événement. Qu'est-ce qui explique le choix de ces deux films?
Oui, d'abord, le premier choix se justifie par justement l'explication que Joël en a donnée. Je crois que quand même c'est une œuvre majeure de Saint-Ben. Vous savez, avec Mandat, ce que Saint-Ben a essayé de faire, il l'avait déjà fait dans son premier film, Borom Sharet. C'était à l'exemple des néo-réalistes italiens de poser sa caméra et de poser sa caméra sur le petit peuple et de voir comment la situation coloniale et la décolonisation mal réussie a impacté la vie du petit peuple. Avec Khala, nous faisons la transition de ce peuple à une bourgeoisie locale naissante. Non pas une bourgeoisie productrice de richesses, mais une bourgeoisie, ce que Saint-Ben lui-même appelle la bourgeoisie comprador, bourgeoisie consommatrice, alors qu'il est à cheval entre l'Occident et l'Afrique, mais ni l'un ni l'autre. Donc déjà, c'est la naissance de cette bourgeoisie-là qui est complètement coupée de l'Afrique et qui n'est pas devenue européenne. Bien sûr que Saint-Ben campe avec beaucoup de talent, avec beaucoup de verve, parfois dans un Wolof châtié, parfois dans un Wolof mélangé de français, des images qui parlent. Hein, des images qui parlent. Un Sénégalais qui est assis, qui met dans son radiateur, par exemple, de l'eau d'évian, qui est assis dans son bureau, qui refuse de parler à sa fille en Wolof, mais préfère le français. Mais quand il découvre qu'il est impuissant, il court vers le marabout. Donc, vous voyez, c'est toute une fresque. Saint-Ben ne fait pas de grands discours. Il nous tend la caméra. Il nous dit, voyez ce que vous êtes. D'ailleurs, il va lui-même, les gens l'ont toujours appelé cinéaste révolutionnaire. Il dit non, l'artiste ne fait pas la révolution. L'artiste incite à la révolution en montrant aux gens leur quotidien et en suscitant en eux le désir de changement. Et il va plus loin et dit d'ailleurs, le bon révolutionnaire, le grand artiste ne fait pas la révolution parce qu'au moment même où cette révolution se passe, il doit en préparer une autre. Donc cette dialectique, ce changement constant, ce regard neuf, d'utilité. D'ailleurs, je me rappelle d'une interview qu'il a donnée en 1974. On lui dit, mais qu'est-ce que l'écriture pour toi? Et Saint-Ben dit, pour moi, l'écriture, c'est une déchirure, c'est un déchirement constant. C'est l'amour de l'autre, c'est se déchirant en allant vers l'autre. Et toutes les œuvres de Saint-Ben sont une illustration de cet amour profond pour le peuple africain. Mais il faut que le peuple africain se voit tel qu'il est. Donc après le mandat que Joël a très bien commenté, a très bien campé, eh bien un autre pan justement de cette Afrique contemporaine-là, c'est notre bourgeoisie naissante en fait, qui reste encore inféodée à l'Occident, qui ne crée pas de richesse, qui est victime à la fois des fétiches de l'Occident et des fétiches de l'Afrique. L'histoire de Khala, si vous voulez, c'est les premiers Africains qui deviennent maîtres de la chambre de commerce. Or, on sait que de 1888 à 1970, la chambre de commerce était occupée par un Français qui s'appelle Charles-Henri Galenka. Et c'est en 1970 qu'on fait la passation de service. En 1970, à la chambre de commerce de Dakar pendant le règne de Senghor.
C'est ici que nous mettons un point final à cette édition de L'Amérique et vous, consacrée à Ousmane Sembène. Samba Gadjigo, professeur à Mount Holyoke College dans le Massachusetts, merci pour votre contribution.
Merci bien, merci et merci de l'opportunité d'avoir facilité ce dialogue entre ma collègue Joël et moi. Joël, dont l'analyse de l'œuvre de Sembène est très pertinente.
Joël Vitiello, professeur de français et des études francophones à McAllister College dans le Minnesota, merci de votre contribution.
Merci Eric et merci Samba. Et ça me donne envie de revoir tous les films de Sembène dans les prochains jours.
La mise en onde était assurée par Lionel Lunanira Gahima. Merci. Eric Manirakiza était avec vous au micro. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un...